Nous avons pu, frères et sœurs, tous l'observer. La première lecture nous présente un événement porteur d'un enseignement essentiel pour notre vie spirituelle. C'est un enseignement très riche et qui est d'actualité. L'action se déroule à la fin de l'exil. C'est le moment du grand retour. On vient peu à peu de reconstruire Jérusalem et le temple. Et voici, nous dit Noémie, que le grand prêtre, pour la première fois dans le temple, fait résonner de longues heures la parole de Dieu. Et on comprend l'immense émotion qui saisit les cœurs à cet instant. Mais il est essentiel de mesurer que l'exil ne fut plus que négatif pour le peuple hébreu. Il ne fut pas que négatif parce que peu à peu, il y a eu dans les communautés la certitude qu'il y avait la centralité de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et pour reprendre la très belle formule du philosophe et rabbin Marc-Alain Waknin, peu à peu ils ont compris qu'ils passaient de la civilisation de la pierre à la civilisation du livre. Et c'est à partir de la parole de Dieu que le peuple hébreu est entré dans l'introspection, c'est-à-dire relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Et peu à peu, le peuple a pu mesurer que malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, Dieu ne l'a jamais abandonné, alors que l'inverse ne fut pas toujours vrai. En effet, lorsqu'il vivait sur la terre promise, le peuple oubliait parfois que cette dernière n'était pas une propriété, mais un don du Seigneur. De surcroît, le peuple s'était vautré dans l'idolâtrie et le goût du lucre avait pris le pas sur le sens du partage. Le pauvre et l'étranger n'étaient plus honorés contrairement à ce qu'exigeait la loi de la Torah. Et si les rites avaient été maintenus, le cœur des croyants s'était affadi. Si la loi était toujours en vigueur, on ne la connaît plus que par ouï-dire et son observance s'était mutée à une sorte de formalisme extérieur. Au fond, comme était vraie cette phrase du prophète que reprendra Jésus, « Oui, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Alors, frères et sœurs, cette démarche, nous sommes invités à la vivre, relire notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et d'une certaine façon, la démarche synodale proposée par notre évêque participe d'une introspection actualisée pour les temps qui sont les nôtres. En effet, à travers l'épisode de l'exil, nous pouvons sans crainte retrouver la situation de nos communautés aujourd'hui. L'Église en France, comme dans toute l'Europe, est en situation de diaspora, c'est-à-dire de minorité. Cela induit que dans un nouveau contexte sociétal et de profondes mutations civilisationnelles, elle doit accepter de se transformer, de se convertir. Et du reste, c'était bien le grand objectif fixé par Saint Jean XXIII lors de l'annonce du Concile Vatican II, dont nous fêtons les 60 ans de l'annonce, presque jour pour jour, c'était vendredi dernier, tandis que nous fêtions la conversion de Saint Paul. Oui, d'une certaine façon, telle est la question traitée par les assemblées synodales il y a 15 jours, à savoir quels sont les freins, nos freins personnels, nos freins communautaires, qui empêchent tant de nos contemporains, de nos concitoyens, de reconnaître dans la vie des communautés chrétiennes la vigueur, la flamme de l'Évangile. Alors légitimement, on posera la question, mais quelle est cette flamme? Pour mieux comprendre, regardons ensemble le parcours pédagogique proposé par la liturgie de l'Église. Souvenons-nous, dimanche dernier, dans l'Évangile selon saint Jean, le premier acte public de Jésus était comme une introduction à la théologie du signe. C'était Cana. Et chez Luc, aujourd'hui, la perspective est très différente. Tout commence par un discours, quelques mots en fait. Et force est de constater que le lien avec l'Ancien Testament est très nettement marqué. En effet, Jésus ouvre la Torah et se présente comme celui qui vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Alors que veut dire accomplir ? Jésus, nous le voyons, est celui qui ouvre le livre, en ce sens que sa personne même en dévoile toute la signification. Comme l'écrira magnifiquement le cardinal Coffi, en relisant le texte d'Isaïe, Jésus ne le répète pas, il fait surgir un sens nouveau. Il redonne vie à un écrit qui pouvait être mort. Et celui-ci cesse d'être un simple témoin d'une parole passée. Jésus devient source d'action. Il engendre la vie. Jésus ne fait ni de l'archéologie ni de l'exégèse. Il accomplit en ce sens qu'il ouvre un nouveau monde. Frères et sœurs, c'est cela la grande tradition judéo-chrétienne. Accueillir la parole de Dieu à frais nouveaux et accepter que l'Esprit du Seigneur travaille à ce point notre cœur que nous puissions ouvrir ensemble de nouveaux chemins. La plus grande tradition de l'Église, c'est la nouveauté. Regardons l'histoire de l'Église. Tant de visages d'hommes et de femmes, tant de saints et de saintes qui ont ouvert de nouveaux chemins parce qu'ils avaient laissé résonner en eux la parole de Dieu à frais nouveau. Et nous affirmons dans notre foi que Dieu est infini, et bien puisque Dieu est infini, sa parole infiniment travaillera notre cœur. Ajoutons que d'une certaine façon, à travers ce passage d'Isaïe, c'est l'ensemble de l'Écriture, la loi et les prophètes, qui est comme résumé dès le seul premier chapitre de saint Luc. Et souvenons-nous, à la fin du même évangile, Jésus, sur la route d'Emmaüs, expliquera à ses hommes que toute l'Écriture, dans sa totalité, parlait de lui. Et nous comprenons à ce moment-là qu'il y a comme une théologie de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité est éclairée par Dieu dont la présence aimante vient tout transfigurer. L'histoire se poursuit, l'histoire se déploie, les uns les autres, aujourd'hui nous en sommes les acteurs. Et à notre tour, nous devons comprendre que ce qui nous a été transmis l'a été pour nous apprendre à relire à neuf la parole de Dieu. Se mettre au service de la parole de Dieu consiste à entrer dans un mouvement intérieur, créateur, et ainsi se faire les humbles serviteurs des commencements que Dieu veut pouvoir produire grâce à chacune et chacun d'entre nous. À la grande question, la Bible, quoi de neuf ? La réponse est simple, frères et sœurs. Aujourd'hui, la parole s'accomplit par notre vie.